V-Golf Québec, 7 jours sur 7. Réservez dès maintenant sur vgolfqc.com.
Pour les fêtes cette année, la circulaire m'a amené des rabais et des bas prix.
Comme le dindon assaisonné Butterball ou irrésistible à 1,99 la livre ou 4,39 le kilo. Et jusqu'à samedi seulement, profitez du pâté Saint-Hubert à 4,99 et des grosses crevettes irrésistibles 21-25 blanches du Pacifique 340 grammes à 5,99. Une foule d'économies pour les fêtes, c'est pas mal en balance. Pour économiser temps et argent sans sacrifier sur la qualité, on se retrouve chez Métro et sur métro.ca. Des conditions s'appliquent. Détails en magasin.
Allô tout le monde, c'est votre sommeil. Alors l'équipe santé bien-être de Dormez-vous m'a demandé de vous parler de toutes nos petites folies, parce qu'on en fait tous, hein? J'en fais des folies, vous en faites des folies vous aussi. Dormir seulement un 3-4 heures par nuit, ça c'est fou ça. Endurer un matelas fini par pure nostalgie, ça c'est très très fou ça. Mais manquer le vendredi fou alors que vous êtes tellement fatigué que vous êtes en train de virer fou, là, vous avez vraiment l'air fou.
Le vendredi fou se prolonge. Dormez mieux avec un rabais de 25% sur presque tout. Seulement chez Dormez-vous. Des conditions s'appliquent pour un temps limité.
Présentement chez Marché Jean Talon à Charlebourg, c'est la place pour trouver vraiment tout à un prix d'amis. On vous attend sur place avec plus de 400 exposants. Que vous recherchiez des articles neufs, de collection ou d'occasion, par ici, les économies. Marché Jean Talon à Charlebourg, viens faire ton tour. Ouvert 7 jours.
IGA des sources se présente.
Le temps des fêtes. Recevez en grand cette année avec les produits du pied de cochon. Au menu, le gâteau aux fruits, la fameuse tourtière, le ragoût de pâte, la toute nouvelle bûche de Noël et plusieurs autres produits.
IGA des sources, des découvertes à chaque rayon.
Maison Adam.
Rehaussez votre expérience sonore à la maison comme à l'extérieur avec les experts de Maison Adam. Du 4 décembre au 4 janvier, courez la chance de gagner votre achat Bose jusqu'à concurrence de 5 000 $. Pour être éligible au concours, achetez un produit Bose en magasin au 710 rue Bouvier ou en ligne sur maisonadam.ca. Le tirage au hasard aura lieu le 6 janvier.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Ce samedi, samedi d'économiser. Et ça tombe bien, parce que c'est un super samedi à la SAQ. Ça veut dire que dès demain seulement, je peux épargner 20% de rabais sur les produits sélectionnés en succursale et en ligne. 20% de réduction sur une sélection de vin, spiritueux ou de prêt-à-boire, ça en fait des économies. Mais il faut se dépêcher, car c'est premier arrivé, premier servi. Le super samedi à la SAQ, c'est super! SAQ, le goût de partager. Valide sur les produits sélectionnés jusqu'à épuisement des stocks. 18 ans plus, détails dans SAQ.com.
Les manchettes sportives, présentées par BPM Sport.
BPM Sport.
La radio des sports au Québec. Yeah!
Hey, c'est Jordan. Un méchant gros week-end de sport en vue. Dans la NFL, victoire de 44-30 des Lions sur les Cowboys hier et de gros duels à prévoir en cette semaine 14. L'effet Joe Burrow va-t-il se poursuivre dimanche suite à la victoire des Bengals jeudi dernier à Baltimore? Un autre bon test pour la gang à Joe Cool. Affrontement contre les Bills à Buffalo dès 13h. Sinon, les solides Bears seront à Green Bay à 16h25. Un duel contre les Packers. Et les Texans vont-ils faire couler davantage les Chiefs avec leur fiche de 500 à 6-6. Manquez pas ça à 20h20 dimanche. Maintenant, dans le hockey, Ligue nationale. Le Canadien affrontera les Maple Leafs à Toronto demain 19h. Parlant de la Sainte-Flanelle, on a appris qu'ils prendront part à la prochaine Héritage Classique. Un match dehors. Tout ça aura lieu en octobre prochain à Winnipeg. Vous aurez compris qu'ils vont affronter les Jets. Yes, sir. Et la GMQ, les Remparts seront sur la route ce week-end. Un seul match au programme, en direct de Chicoutimi au Centre Jean. Georges Vézina, ils affronteront les rivaux éternels, les Saguenayens. Manquez pas ça à 19h. Et dans la Ligue nord-américaine, le National est à Sorel ce soir 20h et retrouvera le complexe sportif bonaire de l'ancienne Lorette demain 19h contre nul autre que le Cool FM. Ça va brasser. Watch out!
Pour plus de sport, ici BPM Sport.
BPM Sport.
100.9.
Présenté par Giroir Équipement. Une équipe passionnée en machines de levage, de manutention et d'élévation de personnes. Concessionnaire spécialisé de Manitou, Giroir Équipement vous offre un service inégalé dans votre région. Giroir.qc.ca.
Choix.
Choix.
98.
98.
1. Choix.
Choix.
Radio X. À Québec,
Québec.
C'est Radio X.
Choix.
Radio X. Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
Oh my gosh. They're all going against the wind.
and the wind's 120 knots to the west.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Oh my gosh, dude. Radio X.
Bon vendredi soir tout le monde, bienvenue dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Sans plus attendre, allons retrouver l'animateur que vous aimez, entendre parler des mystères de la vie et de l'univers, Christian Page, bonsoir.
Bonsoir Nick.
Comment vas-tu?
Ça va bien.
Oui.
Nos mystères de l'univers ce soir, ce sera surtout nos mystères à caractère historique.
Oui. Hein,
parce que c'est la thématique de la soirée.
Absolument.
Donc, les mystères à caractère historique. Donc, il y avait beaucoup d'actualité là, au cours des dernières semaines sur le sujet. J'ai essayé de faire un tri à travers tout ça. J'espère que ça va divertir les auditeurs.
Comme à chaque fois, les gens apprécient toujours.
Donc, écoute, si tu veux, on commence tout de suite avec notre première actualité de la semaine.
Oui.
Et là, je dois faire un peu un mea culpa, parce que, bon, il y a quelques semaines, suite à une lettre qui avait été envoyée à l'administration Trump, on sait que le gouvernement, l'administration Trump, ont mis une espèce de comité en place pour la libération ou la divulgation de documents, bon, disons plus ou moins confidentiels, qui ont alimenté toutes sortes de débats. Et suite à une élue qui avait envoyé une lettre, Trump avait annoncé « On va rendre public les dossiers sur Amelia Earhart ».
Oui.
Amelia Earhart, on le rappelle, une aviatrice, héroïne américaine, disparue le 2 juillet 1937, alors qu'elle tentait de faire le tour du monde à bord d'un avion, un appareil, un Electra 10E. Elle était accompagnée à ce moment-là de son navigateur. Et la dernière, elle était partie des États-Unis, avait gagné l'Amérique du Sud, ensuite l'Afrique, tout le sud de l'Europe, l'Asie, tout le reste. Et puis bon, voilà, sa dernière étape pour regagner les États-Unis devait être La Haye en Nouvelle-Guinée, à destination des îles Hawaï. Mais comme c'était trop long pour faire le trajet d'un seul coup d'aile, elle devait obligatoirement se ravitailler sur un atoll qui était situé dans le Pacifique, qui s'appelle l'île Howland. On avait aménagé une piste de fortune pour qu'elle puisse s'y poser. Et malheureusement, l'appareil ne s'est jamais posé. Le dernier message d'Emilia Earhart était assez ambigu. Hein. Elle a dit « Je me trouve à 157 degrés de longitude S, 337 degrés de latitude Sud. » C'est son dernier message. Et toutes les recherches entreprises à ce jour pour retrouver l'appareil et retrouver éventuellement les restes de elle et de son navigateur, Fred Noonan, n'ont jamais abouti. Donc, l'affaire est entourée un peu de mystère et l'administration Trump avait dit on va fouiller et on va rendre public tous les dossiers sur Amelia Earhart. Et moi, je dois t'avouer que je m'intéresse à cette histoire-là depuis des décennies. Je suis allé à quelques reprises aux Archives nationales, j'ai fait sortir les dossiers sur Amelia Earhart, je les ai en grande partie dans mes propres archives à la maison. Et j'étais pas resté sur l'impression qu'il y avait des dossiers secrets, hein. D'autant plus que c'est une histoire de vol civil, il n'y avait pas vraiment d'implication militaire là-dedans. Donc, quand Trump a annoncé on va rendre public les dossiers sur Amelia Earhart, j'avais plutôt l'impression que c'était levé l'index en l'air, puis il s'est dit, on va regarder de quel côté le vent souffle, puis je vais publier quelque chose. Mais effectivement, on a fouillé dans les archives et on a trouvé, pas mal de documents. Donc là-dessus, mea culpa, moi qui croyais qu'il y avait à peu près rien ou quelques dossiers, là, à gauche et à droite, un peu égarés sur des tablettes. Non, les archives nationales viennent de mettre en ligne 4624 pages.
Oh.
C'est quand même pas mal, presque 5000 pages de documents liés à la disparition d'Amelia Earhart. Et ces documents, il faut quand même le dire, il n'y a rien là-dedans qui nous permet d'approcher d'une solution quelconque. Parce que depuis la disparition d'Amelia Earhart, l'hypothèse qui est favorisé par la plupart des historiens, c'est que l'avion se serait probablement écrasé quelque part si Amelia Earhart avait tourné vers le sud, ce qui était son meilleur choix, hein, si on se mettait à la place du pilote à ce moment-là, m'être retrouvé dans son avion avec aucune perspective en dessous de moi pour me poser, tourner au sud m'amenait forcément vers des îles, ou bien ça me ramènerait à l'île Holland si je l'avais dépassé, ou éventuellement éventuellement, ça m'amènerait aux archipels des îles Phoenix, hein, tout un paquet d'atolls, certaines d'entre elles désertes à ce moment-là, inoccupées, mais à tout le moins des terres qui auraient pu permettre, en tout cas qui auraient suggéré un amérissage à proximité et qui auraient peut-être permis aux rescapés de survivre pendant un temps sur ces îles ou atolls inhabités dans l'attente de secours. Et l'une de ces îles, un atoll, qui est l'île de Nikumaroro, est devenue un peu le Saint Graal pour les amateurs de mystères qui touchent l'histoire d'Amelia Earhart. Et jusqu'à maintenant, plusieurs recherches ont été menées. C'est un tout petit atoll inhabité. Et les quelques recherches qui ont été menées dans l'île ont permis de trouver des objets. Mais il faut être très prudent parce que, quelque part, même si on dit que c'est un atoll qui est inhabité, il l'a pas toujours été. Donc, durant la Deuxième Guerre mondiale, bon, Amelia Earhart, ça nous place en 1937, mais on sait que durant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, sur une des pointes de l'atoll, avaient installé un petit campement militaire. Parce qu'il faut se rappeler, durant la guerre du Pacifique, les Japonais occupaient une grande partie de ces îles qui se trouvent dans le Pacifique Sud. Donc, on avait installé une petite base américaine qui était au bout de l'atoll. Et ensuite, quelque part, dans les années 40, fin des années 30, début des années 40, il y a eu une tentative de colonisation de cette île. L'île, à ce moment-là, était sous juridiction britannique. Et les Britanniques avaient transféré sur l'île quelques insulaires qui venaient d'autres îles aux alentours. Et on a tenté d'installer un petit village et une tentative de colonisation qui n'a pas fonctionné. Donc, éventuellement, les insulaires ont été ramenés sur leurs îles originelles. Et puis, bon, ben voilà, l'île est retombée un peu dans l'oubli. Mais le fait qu'il y ait eu ces tentatives, cette base militaire et cette tentative de colonisation, on comprend que comme il y a eu de l'occupation humaine, si on mène des recherches dans l'île et on trouve, par exemple, une chaussure ou on trouve une bouteille de médicaments, ce qui était le cas, avant de crier que c'était à Amelia Earhart, il faut quand même se rappeler qu'il y a eu de l'occupation humaine et que ces objets-là peuvent provenir de cette occupation humaine avant de crier à l'idée qu'on a retrouvé Amelia Earhart. Il y a un détail intéressant. Lorsque cette première tentative d'occupation va se faire, lorsque les premiers insulaires arrivent dans l'île, sous la houlette des Britanniques, bien sûr, on va quand même trouver un squelette. En tout près d'une plage, on va trouver des restes humains. En fait, on trouve un squelette presque entier. Ces restes sont placés dans une boîte et ils sont envoyés aux îles Fidji, qui est à ce moment-là le haut lieu britannique de l'occupation britannique dans cette région-là. Donc, on envoie les os dans une espèce de centre d'identification médico-légale au Fidji, et il y a une analyse qui est faite sur les os. L'analyse qui est publiée en 1941 conclut que les ossements sont probablement ceux d'un naufragé, d'un insulaire. Hein? C'est un squelette d'assez petite taille et on conclut qu'un insulaire a dû échouer éventuellement sur l'île de Nikumaroro et il est décédé sur place. Donc, merci, bonsoir.
C'est réglé.
De ce côté.
Oui.
C'est réglé. Mais déjà là, quand même, en 1941, quand le rapport est publié, le médecin lui-même, le médecin légiste, mentionne dans son rapport qu'on lui a soufflé à l'oreille que ses restes pouvaient être ceux d'Amelia Earhart. Donc, tu vois, hein, ça fait déjà partie d'un... On en parle déjà, là, à ce moment-là. Là. Oups, on trouve des restes sur l'île de Nikumaroro. Est-ce que ça pourrait être...
Déjà, on y pense, oui.
Donc, c'est dans l'air, là, ouais, absolument. Donc, le rapport du médecin légiste semble assez catégorique. Non, ce n'était pas celui d'une femme de type caucasien, mais plutôt celui d'un insulaire. Mais il faut quand même savoir qu'au début des années 2000, les ossements en question ont été perdus durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais au début des années 2000, un médecin légiste du Tennessee s'est repenché à nouveau sur le rapport médico-légal de 1941. Et uniquement parce que, bon, le médecin légiste avait quand même fait un bon travail en fin 1940, début 1941, il avait fait un bon travail. Chacun des os avait été mesuré, pesé, dessiné, photographié même dans certains cas. Donc, il a fait un très, très bon travail. Et des médecins légistes, donc là, on est rendu dans les années 2000, vont se repencher à nouveau sur ce fameux rapport de 1941, ce rapport médico-légal, et eux sont moins catégoriques que le médecin d'origine. Hein? Ils disent, oui, c'est vrai que ça pourrait correspondre aux ossements d'un insulaire, mais ça pourrait aussi correspondre à celui d'une femme. Donc, ici, c'est une femme. Il pourrait peut-être s'agir des ossements d'Amelia Earhart.
D'accord.
Donc, tu vois, le débat est relancé.
Oui, oui, absolument.
Mais bon, si j'en reviens à mes fameux documents qui ont été rendus publics, il y a vraiment des touches. Je suis allé voir ça. Il y a vraiment des trucs très intéressants. Rien qui nous permet de, encore une fois, d'approcher la solution de l'énigme. Ça ne nous dit pas si Amelia Earhart s'est bel et bien détournée ou a détourné son appareil vers l'île de Nikumaroro, ni même si celle-ci est écrasée. Mais il y a quand même des éléments qui sont très intéressants. Il y a notamment beaucoup de documents sur cette tentative de colonisation de l'île à la fin des années 30, début des années 40. Donc, on a les rapports des autorités britanniques, bon, toute la démarche qui est entreprise à ce moment-là pour le faire. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a également quelques petites pépites, et l'une de ces pépites, c'est un message, hein, c'est un rapport qui relève de la US Navy, qui dit, ben voilà, entre le 2 juillet 1937, je te rappelle que le 2 juillet, c'est la date à laquelle l'appareil a été, a été porté manquant. Donc, il y a un rapport qui dit, entre le 2 juillet et le 6 juillet, donc pendant 4 jours, il y avait des équipes, évidemment des équipes qui étaient sur place dans le Pacifique Sud, qui essayaient de retrouver Amelia Earhart. Et ces équipes de recherche ont capté, semble-t-il, 4 messages radio, ou 4, en fait, 4 messages plutôt en morse. Hein. Des tentatives. Et ces messages semblaient être des appels de détresse. Et en faisant un recoupement par triangulation, hein, bon, à partir du moment où tu sais où ton antenne, tu as deux antennes qui reçoivent le même signal, tu peux extrapoler sur le troisième point d'où vient finalement le signal. Et ils ont, en extrapolant de cette manière-là, ils arrivent à la conclusion que les signaux semblaient provenir d'une région qui était justement les îles Phoenix, là où se trouve justement la petite île de Nikumaroro, où on suppose que Amelia Earhart se serait peut-être écrasée. Donc, c'est tout à fait...
Ça se précise.
Ça, c'est une très, très belle pépite. Et ça vient ajouter à ceux qui croient depuis un certain nombre d'années que c'est là que se trouvent les restes de l'appareil d'Amelia Earhart. Et ensuite, on trouve... on reprend, par exemple, le dernier signal de détresse envoyé par Amelia Earhart, qui était déjà connu des historiens, des archéologues spécialisés dans le domaine de l'aviation. Donc, rien de bien nouveau là-dessus. Ce que l'on voit aussi dans ces documents, c'est qu'il y avait un intérêt particulier du gouvernement américain parce que toute cette région-là du monde était occupée par les Japonais. Et on était quand même à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait déjà, bon, le parti nazi était déjà au pouvoir en Allemagne. On n'avait pas encore envahi la Pologne, mais déjà, il y avait des menaces qui étaient très, très claires. Et on sait que Hitler avait déjà comme allié l'Italie et le Japon. Donc, il y avait une préoccupation. Là. Sur le plan politique, il y avait une préoccupation. Donc, lorsque l'avion d'Amelia Earhart disparaît dans cette région-là, on voit que les Américains vont se poser quand même cette question. Est-ce que l'appareil aurait pu tomber entre les mains des Japonais? Est-ce qu'elle aurait pu être abattue par les Japonais? Rien dans les documents ne permet de penser que les militaires sont allés dans cette voie-là. Mais on a quand même posé cette question-là. Donc, oui, on a des pépites qui sont très intéressantes, qui nous permettent de replacer un peu le contexte historique et militaire un peu de cette disparition. Mais il n'y a pas là-dedans quoi que ce soit qui permettrait de nous révéler le secret ou la solution de l'énigme où se trouve l'avion d'Amelia Earhart. La dernière fois qu'on en a parlé, rappelle-toi, on avait parlé de cette université de mémoire, je pense que c'était au Michigan ou dans l'Indiana, je crois, Indiana, l'université de Purdue, qui envisageait de mener une opération pour retourner dans l'île de Nikumaroro. Ça devait se faire cet automne, en début d'automne. Et ils ont dû repousser à 2026 leurs enquêtes parce que, bon, ils ont présenté des demandes d'accès à l'île de manière trop tardive, et ce qui a provoqué une espèce de retard dans l'émission des autorisations et des permis. Et là, ben, quand ils ont obtenu leur permis, ben, malheureusement, on était en pleine saison des tempêtes tropicales et tout le reste. Donc, on a décidé de repousser ça quelque part au printemps 2026. Mais l'Université de Purdue compte, elle, mener ses enquêtes, elle aussi, dans cette île de Nikumaroro. Et il faut bien le dire, la publication de ces documents, même s'il ne donne pas de solution à l'énigme, ben permet à tout le moins de renforcer l'idée que Amelia Earhart s'est probablement écrasée quelque part ou a tenté un amérissage quelque part dans l'archipel des îles Phoenix.
C'est quand, puis je le répète, je sais qu'on en a déjà parlé, mais à chaque fois, ça me surprend et je suis stupéfait de constater que même avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, on ne sache toujours pas ce qui s'est passé, Christian.
Ouais, mais en même temps, il faut quand même se rappeler, en 1937, c'était une période un peu... c'est un peu les débuts de l'aviation commerciale. Donc, les appareils ne sont pas équipés de boîtes noires, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est comme c'est le cas aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas de système de radar. Hein. Il n'y a pas de système de satellite. Hein. Le premier satellite va être le Sputnik 1 qui sera mis en orbite en octobre 1957. Donc, on est 20 ans avant la mise en orbite du premier satellite. Puis bon, les satellites, on s'en rend pas compte. Puis souvent, on entend des gens dire « Ah, la maudite conquête de l'espace, c'est de l'argent gaspillant, vous voyez, des satellites. Oui. » Bon, si t'as pas de satellite, t'as pas de téléphone portable. Puis si t'as pas de téléphone portable, ton GPS marchera pas non plus. T'sais. Donc, on se rend pas compte au quotidien à quel point la conquête de l'espace et l'utilisation de systèmes sophistiqués comme les satellites, tout ça, nous facilite la vie. Mais en 1937, tous ces éléments-là n'existaient pas. Et comme l'appareil n'était pas équipé non plus d'éléments comme des boîtes noires ou de signaux radio, il n'y avait pas moyen de détecter ça. On n'avait pas non plus de couverture radar qui couvrait cette région-là du monde. Donc vraiment, Amelia Earhart était vraiment dans une zone qui était absolument sans aucune surveillance aérienne. Donc, elle pourrait se trouver nulle part. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, ben oui, mais maintenant, on les a, les satellites, on a des systèmes, on le voit notamment dans le domaine de l'archéologie. On utilise des systèmes LIDAR qui permettent à des faisceaux électromagnétiques de traverser la canopée des arbres, des forêts, pour nous révéler ce qu'il y a en dessous. Donc, on se dit, avec des systèmes LIDAR, si on les faisait passer au-dessus de l'île de Nikumaroro, qui est recouverte quand même d'une végétation assez dense, est-ce qu'on pourrait trouver au sol des marques ou des traces qui laisseraient présager une certaine occupation qui serait antérieure à la tentative d'occupation des Britanniques à la fin des années 30? Est-ce qu'il y aurait des éléments qu'on pourrait découvrir? Mais même à cela, puis c'est quand même intéressant de se dire que c'est aussi un peu avec cela que les chercheurs de l'Université de Purdue souhaitent se rendre sur l'île de Nikumaroro. Hein. On en avait parlé, grâce à des photographies satellites qui ont été prises après des tempêtes tropicales, qui avaient un peu nettoyé le littoral de l'île de Nikumaroro, ils ont vu apparaître des formes qui leur paraissent anormales. Hein. Dans le fond de la mer, là, on voit comme des éléments qui leur semblent artificiels. Et donc, à partir de là, ils ont spéculé que ces photos satellites montrait peut-être les restes ou des restes de l'appareil d'Amelia Earhart enfoui dans le sable, tout près de la grève. Moi, personnellement, j'avoue, et c'est une opinion qui est purement personnelle, mais moi, j'avoue que j'ai mes doutes. Parce que l'avion d'Amelia Earhart, puis je sais qu'on en a discuté entre nous, c'est un appareil qui était fait essentiellement d'aluminium. On avait des moteurs qui étaient en acier, bien sûr, le train d'atterrissage était en acier, mais l'appareil était essentiellement en aluminium. Et la charpente, le squelette de l'appareil était fait en bois. Donc, ouais. Ce sont des matériaux qui se sont désagrégés, mais très, 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 très rapidement. Qui plus est, s'ils étaient dans des eaux chaudes, salines, ces matériaux-là se sont décomposés très rapidement. Donc, moi, je pense que s'il reste encore des débris de l'avion d'Amelia Earhart, il faut essentiellement imaginer soit les moteurs, soit le train d'atterrissage. Mais tout le reste a très certainement disparu. Donc, quand on me montre une photographie satellite et on me dit, ben voilà, on a l'impression ici qu'on voit une partie du fuselage ou qu'on voit une partie de la queue de l'appareil, Ben ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Je doute que la queue ou le fuselage de l'appareil ait survécu à 90 ans comme ça, dans des eaux chaudes, sur les bords de l'île de Nikumaroro. Mais bon, je peux me tromper, là, je suis pas un spécialiste, mais c'est une impression que j'ai pour avoir bien suivi le dossier. Ce sont mes impressions de base.
Puis quand je regarde sur Google Maps, par exemple, là, c'est une minuscule île. C'est tout petit, tout petit, tout petit.
Oui, ça ressemble un peu à un fer à cheval avec un lagon au centre. Mais c'est ça, c'est tout petit, l'île de Nikumaroro. Et ensuite de ça, c'est une parmi tant d'autres. Hein. On cible beaucoup l'île de Nikumaroro. Mais il faut quand même dire que l'archipel des îles Phénix, c'est quand même une dizaine, même sinon une vingtaine d'atolls, dont plusieurs sont complètement inhabités. L'un des éléments qui fait qu'on a beaucoup focalisé sur cette île, et d'ailleurs, on le retrouve hein, parmi les documents qui ont été rendus publics, là, qui sont maintenant accessibles aux archives nationales, on a un rapport de la US Navy qui, eux, ont survolé l'île au lendemain de la disparition d'Amelia Earhart.
Okay.
La température était mauvaise, donc ils n'ont pas pu se poser. Il n'y a pas eu une vérification visuelle. Mais les gens qui ont survolé l'île le lendemain et le surlendemain ont parlé qu'ils avaient l'impression d'une occupation humaine. Hmm. Hein, ils ont mentionné ça, une occupation humaine récente. Mais une occupation humaine récente, est-ce que c'est Emilia Earhart et son navigateur Fred Noonan ou est-ce que ce sont des insulaires qui se sont rendus sur l'île pour pêcher et qui auraient laissé des vestiges? Donc, on l'ignore, le rapport n'est pas suffisamment détaillé, mais c'est sûr que ça ajoute encore une fois de l'eau au moulin de ceux qui veulent croire que l'île de Nikumaroro a été la dernière tentative d'amérissage d'Emilia Earhart.
Ah, on le saura peut-être un jour, Christian.
je me croise les doigts hein, que les nombreuses équipes qui se donnent rendez-vous dans l'île, éventuellement, ils vont ou bien... si c'est l'endroit, je reste persuadé qu'ils vont trouver quelque chose ou infirmer. À un moment donné, là, il faudra tirer une conclusion.
Ça se peut qu'on
trouve
rien.
Ou bien il y a quelque chose ou il n'y a rien. S'il n'y a rien, c'est qu'il faut tourner notre intérêt vers un ailleurs. Et si on trouve quelque chose, ben là, on aura peut-être solutionné ce qui apparaît comme, aujourd'hui, la deuxième plus grande énigme de l'histoire de l'aviation.
Mmh. Si tu permets, je crois qu'on pourrait faire une pause maintenant parce qu'il reste quand même trois autres sujets dont on pourrait parler au retour.
OK. Parfait.
Donc, on fait une courte pause. Bougez pas. C'est les Radio X-Files sur les ondes de choix 98 heures Radio X.
Radio X Files
avec Christian Page.
Radio X, le carbo.
Chaud. Avec
Allô?
Carbo.
Oui, c'est le Carbo.
Lundi au jeudi, 18h.
Radio X.
Présenté par le Quartier Général. Découvre les spéciaux de notre délicieux menu. Pour la meilleure ambiance, l'alcool le moins cher en ville et pour ton party des fêtes, c'est clair, c'est le Quartier Général. Charest-Ouest, coin Langelier.
En décembre, Bâton Rouge vous invite à ses Happy Hours des fêtes. De 15 à 18 heures, profitez de nos spéciaux du bar à seulement 7$. Pour une ambiance chaleureuse et un service irréprochable en décembre, choisissez Bâton Rouge Grill House et Bar, Galerie La Capitale et Place Sainte-Foy.
Les rabais du temps des fêtes sont en cours chez Mondou. Obtenez deux sacs de litière Outerlock 12 kg pour seulement 40$. Dépêchez-vous, l'offre se termine le 10 décembre. En magasin ou en ligne au mondou.com.
Pour Noël, offrez des spectacles musicaux en cadeau avec les Week-ends Rock à la salle Dina Bélanger. On y présentera des spectacles hommages de grande qualité à prix imbattable. CCR, Led Zeppelin, Supertramp et plusieurs autres. Billets en vente au lacapitaledurock.com.
Ce samedi, samedi d'économiser. Et ça tombe bien, parce que c'est un super samedi à la SAQ. Ça veut dire que dès demain seulement, je peux épargner 20% de rabais sur les produits sélectionnés en succursale et en ligne. 20% de réduction sur une sélection de vins, spiritueux, ou de prêt-à-boire, ça en fait des économies. Mais faut se dépêcher, car c'est premier arrivé, premier servi. Le super samedi à la SAQ, c'est super! SAQ, le goût de partager. Valide sur les produits sélectionnés jusqu'à épuisement des stocks, 18 ans plus, détails dans SAQ.com.
L'abus de plaisir n'est pas dangereux pour la santé. Découvrez tous nos produits érotiques pour couples dédiés aux amoureux et à la sensualité à deux. Huile, jouets, lingerie et plus. Par partager le plaisir. Sensationplus.com. Livraison rapide et discrète.
C'est la vente 8-8 chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont les poitrines de poulet désossées à 4,99 la livre, 11 $ le kilo. Le sac de 10 livres de pommes de terre recette délices du marché à 1,77 et le jambonneau Cooks à 2 $ la livre, 4,41 le kilo. Plus de rabais en circulaire et chez Maxi.
Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous primées. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super!
C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer.
19 plus. Jeu gratuit uniquement. Jouer de façon responsable.
Vous aimez conduire? Vous voulez être utile sans vous compliquer la vie? Devenez raccompagnateur ou raccompagnatrice chez TZ Capital National. Simple et flexible, on s'adapte à votre horaire. TZCapital.com.
Avec la contribution financière de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Le duo imbattable de chez Bière et Frites, c'est une moyenne poutine avec une pinte de Bud Light ou 50 pour 9,99. 20 bouchées de la meilleure poutine avec 20 égorgé de bière froide pour 9,99. Une pinte de bière avec une moyenne poutine pour même pas 10$. C'est pas pour rien que Bière et Frites est imbattable à tout point de vue. Bière et Frites, Marais, tient à vous souhaiter la bienvenue aux membres et surtout aux employés du tout nouveau Costco Entreprise qui ouvre aujourd'hui. Bière et Frites, prix imbattable, goût imbattable, même pas proche. 550 rue Marais, 44 Président Kennedy, Sherbrooke et bientôt dans une autre belle ville du Québec.
Radio X Files
avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X Files en ce vendredi soir. Le sujet principal, c'est les énigmes historiques. On a parlé de la disparition et des nouveaux documents là, concernant l'avion et Amelia Earhart. Et là, Christian va parler des découvertes aux pyramides.
Oui, c'est un sujet qui passionne toujours, ça.
Oui.
Les pyramides,
ah oui.
Incontournable quand on parle de mystères historiques. Et là, voilà qu'on apprend... il faut savoir que depuis là, le milieu des années 2010, là, on est 2014-2015, il y a un grand programme, un vaste programme de documentation qui est fait en Égypte antique. C'est le programme qui s'appelle Scan Pyramide. Bon, scan pyramide, évidemment, scan et pyramide,
oui.
Bon, on a bien compris, on scanne les pyramides, mais en réalité, le programme de scan pyramide est un programme beaucoup plus vaste. Ce sont des équipes de chercheurs, dont notamment des chercheurs de l'Université Laval à Québec, qui font partie du programme, et comme le dit son nom, on scanne, mais pas essentiellement les pyramides. C'est le nom qu'on a donné au programme, mais l'idée... et de passer un peu au crible. Puis on n'utilise pas un scan au rayon X là, comme on le fait, par exemple, lorsqu'on se rend à l'hôpital pour vérifier si on n'a pas un os brisé ou un truc comme ça. Ils utilisent des muons. Donc, c'est des particules qui traversent l'atmosphère et qui traversent les objets. Et comme ces particules qui bombardent la Terre, hein, des particules qui viennent du Soleil, et comme elles bombardent la Terre, quand elles sont capables de traverser tous les objets matériels, mais quand elles traversent des matériaux, elles ralentissent. Et en fonction du ralentissement, on peut déterminer si le muon ralentit. S'il le ralentit, c'est parce qu'il y avait de la matière solide. Et s'il accélère, c'est parce qu'il a frappé une zone vide. Tu vois un peu le principe, là. C'est plus compliqué que ça. Mais si on suit, là, on a une idée de comment ça se passe. Donc, scan pyramide, c'est ce qu'ils utilisent. Leur objectif premier était bien sûr de scanner les trois grandes pyramides du plateau de Gizeh. Faut-il le rappeler, c'est les pyramides, si on prend les noms grecs, c'est les pyramides de Khéops, Khéphren et de Mykérinos. Et ensuite, ils ont utilisé la même technique pour scanner des tombeaux royaux. On pense par exemple à la tombe de Toutankhamon qui, pendant un temps, on a cru que, parce que la tombe de Toutankhamon, c'est une toute petite tombe. Et c'est d'ailleurs ce qui avait frappé les archéologues à l'époque. C'est la seule tombe royale non pillée qui a été découverte, ce qui fait qu'elle est si célèbre, hein, oui. Parce que dans le fond, Toutankhamon, c'est un tout petit pharaon de la 16e ou 18e dynastie, et c'est un pharaon qui était tout à fait insignifiant, là. Tu sais, c'était pas un grand pharaon, okay. Puis il est décédé à l'âge de 20 ans. Donc, pourquoi est-ce que tout le monde connaît le nom de Toutankhamon?
Oui.
Ben, parce que son tombeau a été découvert et il n'avait pas été pillé. Ce sont les richesses qu'il y avait dans son tombeau qui l'ont rendu célèbre. Mais on peut s'imaginer un tout petit tombeau. En fait, son tombeau, quand on le visite, on est frappé. Si on visite les grands tombeaux de la vallée des rois, Séti Ier et tout le reste, on découvre que le tombeau de Toutankhamon a presque de l'air d'un placard, là, comparé aux autres tombes. Il est tout petit. Et certains ont même spéculé à un moment donné que pour une tombe royale, les dimensions du tombeau étaient tellement étonnantes qu'on s'y met à spéculer s'il n'y avait pas une tombe derrière le tombeau de Toutankhamon. Comme si le tombeau avait été aménagé à la sauvette dans des pièces avant d'un plus vaste tombeau. Et il faut savoir que il y a tout un débat sur qui était la mère de Toutankhamon. On sait que son père était Akhenaton, mais sa mère, on sait que c'est une des épouses d'Akhenaton, et l'une des épouses d'Akhenaton est célèbre, c'était Néfertiti, la reine Néfertiti. Et on n'a jamais trouvé la tombe de Néfertiti. La plupart des archéologues croit que Toutankhamon n'était pas le fils de Néfertiti, mais d'une autre épouse d'Akhenaton qu'on a appelée la Young Lady. Mais il y a encore un débat autour de ça. Mais quoi qu'il en soit, les archéologues, après la découverte du tombeau de Toutankhamon, lorsqu'on s'est mis à discuter dans des cercles passionnés par l'égyptologie et l'archéologie, on s'est dit, ici, le tombeau de Toutankhamon avait été aménagé à la sauvette devant une tombe plus importante, et cette tombe-là pourrait peut-être être la tombe de Néfertiti, sa mère ou sa mère adoptive, ou peu importe, sa belle-mère, mais quelque part, il y avait quand même un lien de famille. Et là, donc, mais on n'avait aucun moyen de faire ça, on ne pouvait pas défoncer les murs pour voir s'il y avait quelque chose derrière. Et puis, il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans maintenant, Scan Pyramide se sont installés dans le tombeau de Toutankhamon. Ils l'ont passé au crible et non, il n'y a rien derrière le tombeau de Toutankhamon. Donc, tout ce mythe d'une tombe royale dissimulée au-delà du tombeau de Toutankhamon était un pur fantasme. Le tombeau de Toutankhamon, il est tout petit, c'est vrai. Il a été aménagé visiblement parce que le pharaon est décédé en très bas âge. Hein. Il est décédé à l'âge de 20 ans. Il a régné grosso modo, là, il est monté sur le trône. Bon, avant, il y avait quand même un régent, mais lui prend vraiment le pouvoir vers l'âge de 16 ans et il décède 18 ou 19 ans. Donc, il aura régné officiellement que 3 ou 4 ans à peu près. Et sa mort, très prématurée, bien évidemment, a fait qu'on a aménagé un tombeau très rapidement et puis on l'a inhumé dans ce tombeau, ce qui explique ses dimensions excessivement réduites. Mais Toutankhamon, il est célèbre justement parce que son tombeau n'avait pas été pillé. Et on peut quand même fantasmer en se disant les richesses du tombeau de Toutankhamon étaient si fabuleuses et extraordinaires. À quoi devaient ressembler les tombeaux des grands pharaons? À quoi devait ressembler, par exemple, le tombeau de Séti Ier? À quoi devait ressembler le tombeau de Ramsès II? Hein? Ce sont des pharaons qui ont marqué l'histoire de l'Égypte antique, mais malheureusement, quand leurs tombes ont été découvertes, elles avaient été pillées. Et là, j'en reviens un peu à ma nouvelle, parce que je t'ai fait un grand détour. Mais bon, les équipes de Scan Pyramide, donc, ont analysé des détails. Bon, ils ont passé la première pyramide qu'ils ont analysée sur le plateau de Gizeh. Faut-il le rappeler, il y a à peu près entre 80 et 100 pyramides en Égypte.
Wow.
On a toujours, à toutes les fois où on voit des images des pyramides, c'est toujours les 3 grandes pyramides du plateau de Gizeh, là, juste à la sortie du Caire, comme je l'ai mentionné, Khéops, Khéphren et Mykérinos. 3 tombeaux d'ailleurs de la 4e dynastie, et ce sont tous des parents. Hein. La première tombe, Khéops, c'est le grand-père, si je peux dire. Son fils, c'est Khéphren, la tombe juste à côté. Et le petit-fils, Mykérinos, c'est la dernière tombe du plateau. Donc, c'est 3 pharaons de la 4e dynastie. Et là, donc, on a passé en revue la tombe de Mykérinos, qui en égyptien, son véritable nom était Mankoré. Et on découvre qu'il y a à l'intérieur de la tombe de Mankoré, de Mykérinos, qui est une petite tombe, hein, le tombeau, là, on y va en ordre de grandeur, la grande pyramide, celle du pharaon Khufu, ou Khéops, si tu préfères, elle fait 147 mètres de haut. Et moi, je peux te dire, pour y être allé, là, c'est c'est inimaginable.
Ah oui?
Quand tu es devant les pyramides, c'est des montagnes faites de mains d'hommes. C'est renversant. Il n'y a pas de mots pour décrire le sentiment de grandeur que l'on ressent quand on voit les pyramides. Donc, la plus grande pyramide, celle de Khéops, de son vrai nom Khoufou, si on prend son nom égyptien, elle fait 147 mètres de haut. Celle qui est juste à côté, la pyramide de son fils, Khéphren ou Khafré, de son nom égyptien, elle fait grosso modo 137 mètres. Elle est donc 10 mètres, une trentaine de pieds, plus petite que la grande pyramide de Khoufou. Et celle de la dernière tombe, celle du petit-fils de Khéops et fils de Khéphren, celle de Mykérinos, Menkaure, elle fait seulement 60 mètres de haut. Donc, elle n'est pas très grande. Et là, voilà qu'on vient tout juste de nous révéler les travaux de ce groupe de scans pyramides qui ont passé au crible cette fameuse pyramide de Mykérinos. D'ailleurs, rien que pour le besoin des gens qui nous écoutent, là, on ne peut pas visiter la pyramide de Khéphren, elle est fermée au public. On ne peut pas visiter la pyramide de Mykérinos non plus, elle est fermée au public. Et la pyramide de Khéops, moi, j'ai eu la chance de la visiter parce qu'on était une équipe de journalistes, donc okay. On avait des passe-droits, si on peut dire. Mais il faut savoir que si vous voulez visiter la Grande Pyramide, il n'y a que 300 personnes par jour. Et pourtant, il y a des milliers de gens qui, chaque jour, défilent sur le plateau de Gizeh. Mais il y a seulement 300 élus par jour qui sont autorisés à pénétrer à l'intérieur de la Grande Pyramide. Donc, si vous voulez visiter la Grande Pyramide, il faut vous y prendre d'avance, faire des demandes pour vous assurer d'avoir un billet pour pouvoir entrer dans la pyramide. Sinon, je vous propose l'Horizon Khéops, là, qui se tient à Montréal ou en région, là, qui est une espèce de visite virtuelle de la Grande Pyramide, qui est tout à fait extraordinaire, et on s'y croirait. Hein. Je dois t'avouer, pour avoir vu également l'Horizon Khéops, quand je suis sorti de là, j'ai dit aux organisateurs, c'est pratiquement aussi bon que de voir la vraie, hein, parce que on va même à l'intérieur des endroits qui ne nous sont pas accessibles. Quand on visite la Grande Pyramide, on a accès à la Grande Galerie, on a accès à la Chambre du Roi, mais on n'a pas accès aux chambres de décharge qui sont placées au-dessus de la tombe du Roi. Mmh. On n'a pas accès à une chambre plus basse qu'on appelle la Chambre de la Reine, même s'il n'y a jamais aucune reine qui a été inhumée là. C'est en fait un espace vide qu'on fallait lui donner un nom pour on appelait ça la Chambre de la Reine, là. Mais ne vous méprenez pas, là. La reine n'a pas été inhumée dans le tombeau, là. Donc, on n'a pas accès à ces pièces-là, mais dans l'horizon Khéops, cette visite virtuelle, on peut y aller. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, cela étant dit, je reviens à la pyramide de Mykérinos, la pyramide de Menkaure. Donc là, le scan pyramide révèle en fait qu'il y a deux espaces vides qu'ils ont notés. Hein, l'entrée de la tombe, elle se trouve sur la face nord. Et là, ils ont découvert sur la face est, en scannant la façade de la pyramide, ils ont découvert qu'il y avait un espace qui était là, un espace qui est anormal, entre une espèce de saillie entre les blocs. Donc, on se demande à quoi ça doit servir. Est-ce que c'est une autre entrée qui aurait été située de ce côté, sur cette face est, qui ne laissait pas présager l'ouverture, une ouverture par là. Et on a également noté deux petits espaces vides qu'on n'arrive pas à expliquer, hein. Puis quand je dis des petits, ils sont relativement petits, tu vas le voir, 90 cm par 1,50 m pour le premier espace.
Quasi minuscule.
Et le deuxième, fait 90 cm par 60 cm. Et là, donc, on se demande, est-ce que c'est une espèce de tunnel d'aération qui laisserait supposer qu'en dessous de la pyramide, il pourrait y avoir autre chose? Ou est-ce que c'est simplement un espace qui a été laissé entre les blocs pour diminuer la charge de la construction? Donc, une volonté qui a été faite par les architectes de créer une espèce de... un allègement à la structure, ça reste encore à déterminer. Mais là, pour l'instant, scan pyramide nous révèle qu'il y a ces fameux espaces pour lesquels on n'arrive pas trop à expliquer là, quel a été l'objectif des architectes de la pyramide de Mykérinos d'avoir laissé ça de cette manière-là. Il faudra d'autres investigations pour essayer de comprendre quelles ont été un peu ces espèces d'anomalies dans la structure du bâtiment. Et en même temps que ça se fait, donc en même temps qu'on nous annonce la découverte de ces éléments, il y a Zahi Hawass, qui est un archéologue spécialisé dans l'Égypte antique. Il a d'ailleurs été pendant longtemps le directeur du département des antiquités égyptiennes dans le gouvernement. Donc, c'est vraiment le grand spécialiste archéologue de l'Égypte antique. On lui doit énormément de découvertes. Alors qu'on avait tout ce brouhaha autour de la pyramide de Mykérinos, voilà que Zahi Hawass nous fait une déclaration tout à fait extraordinaire. Il nous parle, c'est un suspense, hein? Il nous dit qu'il y aura une découverte extraordinaire, ouais, qui va être révélée au reste du monde en 2026. Il parle que cette découverte-là sera si importante qu'elle va forcer la réécriture des livres d'histoire sur l'Égypte antique. Donc, on a bien hâte de voir ça. Et sans la nommer, hein, parce qu'il ne dit pas c'est quoi, mais on sait que Zahi Hawass a été impliqué dans un projet, le fameux projet de scan pyramide, il a été impliqué là-dedans. Et on sait qu'en 2017, scan pyramide ont découvert... Parce que quand on visite la pyramide de Khoufou, il y a une grande galerie qui mène à la chambre du pharaon. Et au-dessus de cette grande galerie, hein, qui est en encorbellement, on a découvert, grâce à cette technique de scan pyramide, on a découvert un énorme vide à l'intérieur de la pyramide. Donc ici, on parle d'un très grand espace qui fait 30 mètres de long. Hein, donc, tu t'imagines une chambre qui fait 100 pieds de long. Là.
Oui.
Et elle est située juste au-dessus de la grande galerie de la pyramide. Et là, évidemment, on s'est mis à spéculer. Est-ce que ça pourrait être la véritable chambre? Parce qu'il faut savoir encore une fois que les premiers Européens, puis même avant les Européens, il y a des Arabes qui sont entrés là, au 15e, 16e siècle, qui ont pénétré dans la Grande Pyramide. D'ailleurs, quand on visite la Grande Pyramide, on entre par un trou qui a été fait par ces pilleurs de tombe au 14e, 15e siècle. Ils ont percé un trou de la façade extérieure jusqu'à la Grande Galerie. Donc, une espèce de chemin un peu en zigzagant qui nous amène jusqu'à la Grande Galerie. Et c'est le chemin qu'on emprunte, nous, les visiteurs, pour accéder à la Grande Galerie et visiter la pyramide. Donc, on avait des pilleurs de tombes depuis l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui qui se sont succédés et qui sont entrés dans la pyramide. Et on peut imaginer qu'immédiatement après l'inhumation du pharaon, la tombe a été pillée parce que tous les comptes rendus que l'on a, qui datent du Moyen Âge, de visite à l'intérieur de la pyramide, on parle toujours d'un endroit qui est complètement vide. Donc, on n'a jamais trouvé de momie, on n'a jamais trouvé de trésor, rien du tout. Mais quand on arrive dans la chambre du roi, on voit bien une espèce de coffrage, hein, qui est fait en pierre. Et ce coffrage-là, ben évidemment, on se dit bien que c'est le coffrage qui devait servir à accueillir le cercueil du pharaon. Mais le coffrage, il est vide. Là. On a un coffrage vide au milieu d'une pièce vide. Mais le coffrage, on n'a pas construit ça, le coffrage, pour rien. Là. Donc, on se dit qu'il devait servir à accueillir la tombe du pharaon. Mais techniquement parlant, pharaon ou pas pharaon, on ne l'a jamais trouvé, le pharaon. Ouais. Ou bien on a volé sa momie, ou il y a quelque chose qui s'est passé, mais on l'a jamais trouvé.
Pas. Ouais.
Et là, voilà qu'on a la découverte en 2017 par le projet de scan pyramide. On trouve cet immense espace vide au-dessus de la grande galerie. Et là, ben évidemment, ça a été fait volontairement. Là. C'est clair que ce n'est pas simplement une chambre de décharge comme il y en a une au-dessus de la chambre du roi pour alléger le poids des blocs sur les corridors ou les structures internes. Ça a été fait à dessein. Et on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Et quand ça a été découvert en 2017, évidemment, bon, ça, il y a un enthousiasme. On découvre une chambre secrète à l'intérieur de la Grande Pyramide. Tout le monde a envie de prendre un burin et un marteau et aller défoncer le mur pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. C'est bien normal. Il y a peut-être des trésors, il y a peut-être des choses fabuleuses. Mais, le gouvernement égyptien, lui, semble moins pressé et surtout est beaucoup plus... il s'est fait tellement piller. Le gouvernement égyptien a tellement vu les trésors nationaux se faire piller au 18e et 19e siècle par des archéologues étrangers que maintenant ils redoublent de prudence lorsqu'il s'agit de faire des travaux. Et quand on a trouvé ce fameux espace au-dessus au-dessus de la grande galerie, on s'est dit, bon, il n'est pas question que quelqu'un arrive là avec un marteau puis défonce le mur. Il faut s'assurer qu'on peut entrer à l'intérieur sans endommager le monument. Donc, Scan Pyramide ont eu pour mandat de recartographier la structure, s'assurer que ce grand corridor, ce grand espace, il était bel et bien là, ce que une seconde analyse a bel et bien démontré et confirmé. Et là, il y a plusieurs projets qui ont été mis de l'avant. Parmi ces projets-là, je sais qu'il y en a un qui était développé par le Centre national de la recherche scientifique en France, qui s'occupe, le département qui s'occupe de recherche archéologique. Ils avaient imaginé, c'est assez ingénieux, ils ont imaginé une espèce de sarbacane qui aurait à peine la taille de la grosseur là, d'un stylo. Imagine-toi un stylo à billes. On perce un trou dans le mur et à partir du moment où on a introduit ce long tube, ce long stylo à travers le mur, qui va faire à peu près le tube doit mesurer 2,50 m, 3 m pour rejoindre l'espace vide. Ouais. Et une fois qu'il sera introduit dans l'espace vide, on pourra envoyer une caméra de type endoscope, comme ceux qu'on utilise, par exemple, dans des opérations chirurgicales, qui sont minuscules et qui peuvent aller dans des parties là, du cerveau, par exemple. Ça nous montre à quel point c'est minuscule. Ou bien encore, on pourrait souffler dans cet espace un drone, mais un drone qui aurait la taille d'un moustique, hein, qui aurait la taille à peu près d'une mouche.
Ah oui,
donc, okay. Le drone serait lancé à l'intérieur de l'espace, se mettrait à voler, il serait équipé de lumière LED qui éclairerait l'environnement autour de lui, et à ce moment-là, il pourrait nous transmettre des informations
sur ce qu'on a dans
filmant à l'intérieur de ce grand espace. Et à ce moment-là, le dommage, parce que c'est toujours d'avoir une exploration qui soit la moins invasive possible, et donc dans cette exploration, ben, le seul dommage qui serait fait, c'est ce petit trou percé à travers la pierre qui aurait la taille d'un stylo BI. Donc, je pense qu'on peut quelque part, là, entre deux mots, on choisit le moindre, entre oui. Ne pas savoir ce qu'il y a et savoir ce qu'il y a, ben, je pense que c'est un dommage qui serait acceptable d'imaginer ce petit trou-là. Donc, on sait qu'il y a des équipes de chercheurs qui travaillent à différents projets, et ce, depuis 2017, donc ça fait quand même pratiquement 10 ans qu'on est en train d'élaborer des techniques pour pouvoir visiter ce grand espace à l'intérieur de la Grande Pyramide. Et là, sans le dire nommément, Zahi Hawass, qui est très impliqué dans tous ces projets-là, le fait qu'il nous lance un truc comme celui-là, et il le mentionne bien, c'est à propos de la Grande Pyramide, donc pas à propos d'un autre bâtiment, pas à propos d'un autre tombeau royal. Je sais qu'il est impliqué dans d'autres recherches, notamment sur la tombe de la reine Cléopâtre. Il a supervisé des recherches avec une archéologue qui vient de la République dominicaine, qui fait un travail extraordinaire. Mais dans ce cas-là, Zahi Hawass mentionne bien, c'est la Grande Pyramide. Donc, quel est le grand mystère encore qui demeure avec la Grande Pyramide? C'est le contenu de ce grand espace au-dessus de la grande galerie. Donc, je pense qu'on peut se croiser les doigts et espérer qu'en 2026, on aura peut-être enfin l'explication, ou à tout le moins des images et une documentation sur le contenu de ce grand espace au-dessus de la Grande Galerie.
C'est quand même extraordinaire parce que c'est des monuments immenses et il n'y a pas de... À moins qu'on l'ait pas trouvé, qu'on ne le sache pas, mais il n'y a pas de pièces cachées ou de trucs à découvrir.
Ben, c'est ça. Il faut des techniques pour essayer de découvrir ça. Il y a peut-être d'autres espaces en dessous de la pyramide, mais jusqu'à maintenant... La seule chose, on sait maintenant, au moment où on se parle, là, en décembre 2025, ça sera peut-être autre chose dans 2 ou 3 ans, mais au moment où on se parle, en décembre 2025, l'utilisation de muons par le projet de Scan Pyramide n'a révélé que ce grand espace au-dessus de la grande galerie de la Grande Pyramide. Il n'y a eu aucune surprise dans la pyramide de Khéphren, donc il n'y a qu'une allée avec une chambre royale, une chambre de déchange un peu en dessous, mais c'est tout. Et dans la pyramide de Mykérinos, on en a parlé, deux petits espaces récemment découverts, mais rien de très... C'est quand même pas une révolution, là. On comprend bien que c'est pas une chambre cachée avec un tombeau royal, là. T'sais, ce sont des petits espaces qui font quelques centimètres seulement et qui viennent simplement nous questionner sur le plan des architectes originaux. Mais dans le cas de la Grande Pyramide, là, bien sûr, ce grand espace au-dessus de la Grande Galerie, il est trop important pour imaginer qu'il ne s'agit que d'une... une espèce de, comment je pourrais dire, un fantasme, ouais. que par les architectes. Là. Ils ont fait ça parce qu'ils voulaient faire quelque chose de très précis. Mais c'est vrai un peu que ça brise l'image qu'on se fait. Hein, quand ouais. on regarde Astérix ou Astérix et Cléopâtre, hein, on les voit se perdre dans la pyramide, puis là, on voit une espèce de labyrinthe là, inextricable. Mais non, les pyramides ne sont pas comme ça. Ce sont des, ce n'étaient essentiellement que des tombeaux ouais. qui servaient à mettre le pharaon. Une machine à réincarnation. Hein. On met le pharaon là-dedans, puis il va se réincarner. Bon, c'est ce qu'on croit encore aujourd'hui. Là.
Oui, oui, oui.
Il n'y a rien qui nous permet de croire que les pyramides aient servi à autre chose qu'à l'inhumation des pharaons. Là. Je veux dire, on a toutes sortes... Je sais que les amateurs d'une espèce d'archéologie fiction imaginent toutes sortes de trucs. On va même jusqu'à inclure les extraterrestres là-dedans. Mais sur le plan de l'histoire et de l'archéologie, les pyramides ne sont rien d'autre que des tombeaux. Point barre.
Ah, dire qu'on a... Oui, vas-y.
Ben, j'allais te dire, ben, voilà pour ce qui est de nos pyramides. Hein. Puis là, comme le temps file, je vais te parler de... Oui. Il nous reste quelques minutes. Fait que, écoute, comme on a parlé d'Amelia Earhart, j'ai quand même une bonne nouvelle. On nous annonce, le gouvernement de la Malaisie nous a annoncé au cours des derniers jours qu'il allait reprendre, hein, il donnait son feu vert, en fait, à de nouvelles recherches qui seront entreprises dès le 30 décembre prochain, donc dans quelques jours. De nouvelles recherches qui vont être entreprises par une société britannique qui s'appelle Ocean Infinity. Et cette Ocean Infinity va tenter de retrouver pour la énième fois, en fait, le fameux Boeing 777, le MH370 oui, de la Malaysia Airlines, qui est disparu le 8 mars 2014 avec oui. 239 personnes à bord. Quand on parlait d'énigmes, là, on en a une qui est solide, parce qu'au moment où MH370 disparaît, là, bien sûr, on a des radars, on a des satellites, on a tout l'équipement nécessaire, mais il fallait, là, il y avait une petite zone, hein, il y avait une zone morte, hein, un ben angle oui. mort, et il a fallu que l'appareil soit dans l'angle mort où il est
on
disparu.
On l'a complètement perdu,
et
pas...
hein? Ouais, et probablement que ça a été fait à dessein, hein. Faut-il le rappeler, là, en 2018, le gouvernement de la Malaisie a publié son rapport final sur la disparition de l'appareil. Et c'est un document de près de 500 pages. Et sans le nommer noir sur blanc, elle dit bien que la disparition de l'appareil ne put se faire que de manière volontaire. C'est quelqu'un à bord de l'appareil qui a décidé de couper les systèmes de navigation, qui a décidé de couper les transpondeurs qui donnaient de l'information sur la position et la trajectoire de l'appareil, et que cette personne-là devait être forcément aux commandes de l'appareil et avait une grande connaissance de la navigation aérienne. Ben, cette personne-là, sans la nommer, il ne peut s'agir que du capitaine, le commandant de bord de l'appareil, ouais. Zahari Ahmed Shah, qui était un pilote de 53 ans, qui avait des problèmes familiaux, qui avait des problèmes financiers également, et qui aurait entraîné, comme c'est malheureusement arrivé à quelques reprises dans le domaine de l'aviation, une espèce de pilote qui a complètement perdu la boussole et puis que finalement, il décide de se suicider en emportant avec lui les passagers de son appareil. Donc, c'est un peu ce que l'on pense ici. Même si le rapport ne le dit pas nommément, mais tu as tout à fait raison. On a, dans le cas de cet appareil-là, il a complètement disparu.
Ah oui, c'est ça.
Et il nous a échappé. On sait que dans les mois qui ont suivi la disparition du MH370, on a retrouvé des débris qui ont été poussés par les courants sur la côte est de l'Afrique et sur l'île de la Réunion. Ces débris ont été clairement identifiés comme étant des débris du MH370, ce qui montre bien que l'appareil a dû s'abîmer en mer et a dû, à tout le moins en partie, être disloqué par le choc. Mais pour ce qui est des passagers, pour ce qui est du fuselage et ce qui est de la partie principale de l'appareil, on n'a rien retrouvé. Et là, donc, on a il faut quand même le dire, Ocean Infinity, donc cette compagnie qui va se lancer dans la recherche, elle a déjà tenté de retrouver l'appareil. C'était en 2018. Elle avait échoué à ce moment-là. Et elle avait repris ses recherches en avril dernier, mais en raison des mauvaises conditions climatiques, elle avait dû suspendre ses recherches. Et là, voilà que le gouvernement de la Malaisie vient d'autoriser à nouveau ses recherches. Elles vont débuter le 30 décembre. C'est encore Ocean Infinity qui vont s'occuper de la recherche. C'est un contrat quand même qui va perdurer. Le contrat est ouvert pour 18 mois. Donc, ça débute le 30 décembre, mais Ocean Infinity peut, s'il en a en ressent le besoin, suspendre pendant quelques temps ou quelques mois la recherche. Hein, le contrat reste valide pour 18 mois. Et c'est un contrat quand même de 70 millions de dollars.
Wow!
Donc, c'est 70 millions de dollars, mais avec la clause très particulière que la somme ne sera payée que s'il y a une découverte. Donc, pas d'épave, pas de salaire.
Oh là là.
Donc, les gens, Ocean Infinity...
Oui.
Voilà, Ocean Infinity, évidemment, s'engage au départ à ses propres frais d'entreprendre ses recherches dans l'océan Indien. En fait, on a localisé une zone à peu près de 15 km carrés où on croit que l'appareil pourrait se trouver. Donc, Ocean Infinity va entreprendre sur son, comme on dit, sur le bras, hein, va entreprendre ces recherches-là dans l'espoir éventuellement de trouver l'appareil. Et si elle le trouve, elle pourra encaisser la cagnotte de 70 millions. Sauf qu'il faut quand même aussi préciser que c'est peut-être ça peut représenter une espèce de consolation pour les familles des passagers qui ont disparu. Mais au moment où on se parle, il faut quand même se dire que même si on retrouvait l'appareil, les boîtes noires ou les communications, puisqu'elles se trouvent dans la mer, hein, parce que, bon, faut-il le rappeler, l'appareil est disparu en 2014, donc il y a plus de 10 ans maintenant, il y a 11 ans. Et bon, imaginons qu'on trouverait au cours de l'an prochain ces équipements-là, les boîtes noires ou la boîte qui contient les communications, ben, c'est des boîtes qui auraient séjourné dans l'eau pendant 12 ans. Là. Et les boîtes, au moment où elles tombent à la mer, elles envoient un signal radio qui dure à peu près 30 jours, qui permet aux équipes en surface de localiser les boîtes noires. Mais après 30 jours, la batterie est épuisée, donc il n'y a plus d'émission de signal. Et ensuite, ben, éventuellement, ces boîtes-là ne sont pas à l'abri de tout et surtout pas du temps. Donc, après avoir séjourné pendant 12 ans en mer, même si on retrouvait les boîtes noires, je pense que le contenu serait inaccessible. Je pense que